Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
Il est important d'avoir à cœur que nos enfants reçoivent le sacrement de la confirmation. Voilà le souhait exprimé par le pape lors de l'audience générale. Et outre sa catéchèse, François a dénoncé la plaie sociale de l'usure, une technique particulièrement utilisée par la mafia dans le sud de l'Italie. On y revient dans cette émission. Entretien rare et précieux, nous remercions nos collègues de la radio Don Bosco à Madagascar. Grâce à eux, vous entendrez le nouveau président de la Grande Île ainsi que le nouvel archevêque Don Siranana. 58 familles chrétiennes palestiniennes risquent l'expulsion à cause de la construction du mur de séparation israélien. L'Église se mobilise. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau magazine de Radio Vatican. S'il ne fallait retenir qu'une image ce mercredi au Vatican, ce serait celle de ce beau perroquet vert posé sur la main du pape, un oiseau offert par des artistes ambulants, ou peut-être encore celle de François Radieux, les yeux tournés vers le ciel sous quatre parapluies, or et blanc aux couleurs du Vatican. Le pape entouré comme chaque mercredi par des milliers de fidèles place Saint-Pierre. Lors de l'audience générale, François a poursuivi son cycle de catéchèse sur les sacrements. Il est important d'avoir à cœur que nos enfants reçoivent le sacrement de la confirmation, le souhait exprimé par François, les explications de Bernard de Gottini.
Tous nous nous préoccupons de baptiser les enfants et c'est bien, a souligné le pape, mais peut-être que nous n'avons pas le même souci qu'ils soient confirmés. Ils restent ainsi à la moitié du chemin et ne reçoivent pas l'Esprit Saint qui est si important pour la vie chrétienne parce qu'il nous donne la force d'aller de l'avant. Le pape a ainsi encouragé les parents à compléter l'éducation chrétienne de leurs enfants, car par l'huile de l'onction, dans la puissance de l'Esprit, nous sommes configurés à Jésus-Christ. Ce lien nous donne la force de l'Esprit pour répandre et défendre la foi, confesser le nom du Christ et ne jamais avoir honte de sa croix, pour nous rendre capables d'aimer comme lui.
Et à l'occasion de l'audience générale, le pape François a dénoncé la plaie sociale de l'usure, une pratique utilisée par la mafia italienne. Le pape a souhaité que les institutions puissent intensifier leur engagement aux côtés des victimes de l'usure qui blesse la dignité inviolable des personnes. Quand une famille n'a pas à manger parce qu'elle doit payer son prêt aux usuriers, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas humain, s'est exclamé le pape, se détachant ainsi de son texte des propos lancés en présence de plus de 3000 volontaires travaillant au sein de fondations, notamment catholiques, des fondations chargées de lutter contre ce phénomène. Antonino Gallofaro.
J'avais demandé 20 000 euros.
Et combien vous avez payé ?
50 000, 60 000.
Cette victime de l'usure qui souhaite rester anonyme gérait une station-service dans les Pouilles. À Rome, loin de son sud natal, elle raconte avec encore beaucoup d'émotion son histoire vieille de 10 ans.
En 2003,
j'ai perdu la tête. Je voulais en finir avec la vie. Je me souviens juste avoir fait le plein avec ma voiture, laissé une lettre pour dire que je voulais en finir.
Il se rendra finalement dans sa paroisse, près de Brindisi, dans le sud de l'Italie. Le conseil contre l'usure local lui viendra en aide. Monseigneur Alberto D'Urso en est le secrétaire national.
On a essayé de le rassurer, de rassurer sa famille. Puis on a essayé de le convaincre de ne plus payer l'usurier. Après beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres, on a essayé de transformer sa dette à l'usurier en dette bancaire qu'il est désormais en train d'honorer.
Car les dettes d'usurier en entraînent d'autres, comme celle des fournisseurs de la station essence par exemple. Sortir les victimes de ces spirales de problèmes financiers peut prendre des années, sans compter sur les conséquences psychologiques. Monseigneur D'Urso.
Il faut d'abord libérer les personnes de la peur. Les gens sont désorientés, alors j'ai appris à faire le confesseur, j'ai appris à les écouter. Parce que quand elles viennent vers nous, ces personnes veulent juste être aidées, mais elles ne t'aident pas. Elles ne t'aident pas à comprendre quel est le problème.
Des victimes de l'usure, Monseigneur D'Urso, on a vu passer des dizaines de milliers ces dernières années. Mais impossible pour lui d'avancer un quelconque chiffre précis, officiel, de ce phénomène caché.
Et on s'en rappelle, dimanche dernier, lors de l'Angélus, le pape François avait déjà évoqué la mafia en condamnant fermement le meurtre du petit Coco, 3 ans. Meurtre survenu quelques jours auparavant dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue en Calabre. Ce pourrait être un événement historique inédit dans l'histoire du renouveau dans l'esprit. Le pape François devrait participer à la 37e convocation du mouvement qui se tiendra à Rome au stade Olimpico les 1er et 2 juin prochains sur le thème « Recevez l'Esprit Saint ». C'est ce qu'annonce le porte-parole du mouvement au terme de son assemblée nationale à Fuji, dans le Latium. Et puis toujours au Vatican, le Saint-Siège et la République de Malte ont signé un protocole d'accord lundi dernier à La Valette. Il s'agit du 3e protocole additionnel au texte référent qui date de février 1993. Il porte sur la reconnaissance aux civils des mariages religieux et des décisions émanant des autorités et des tribunaux ecclésiaux concernant ces mêmes mariages. Il est le premier président à avoir été élu démocratiquement à la tête de la Grande Île depuis le coup de force de 2009. À Madagascar, Herry Rajaonarimampianina a prêté serment samedi dernier. Dans son premier discours, le nouveau chef de l'État avait insisté sur l'importance de tourner la page après 5 années de crise, se posant en champion de l'unité nationale, annonçant une politique de la main tendue au camp de l'ancien président Marc Ravalomanana. La stabilité politique, renouer la confiance entre le peuple et les politiques, ce sera un de ses premiers défis à relever. Nous le dit lui-même, je vous propose d'écouter le président Herry Rajaonarimampianina, interrogé par nos confrères de la radio Don Bosco.
Pour la sortie de crise, vous savez, donc aujourd'hui tout est à faire, tout est prioritaire. Je crois que le plus important aujourd'hui, c'est d'abord établir la confiance entre les dirigeants, c'est-à-dire l'État et la population. Donc ceci pour pouvoir restaurer l'État de droit, pour pouvoir mettre en place l'autorité de l'État, qui me semble être la condition importante pour asseoir la réalisation de tout développement économique et social. Donc il faut que je mette en place cette autorité de l'État pour pouvoir mettre en place la sécurité, pour mettre en place une justice impartiale et pour lutter contre la corruption. Et je pense que c'est bien important. Parallèlement, je vais travailler sur les activités qui portent sur tout ce qui est social, la nutrition, parce que c'est vraiment très 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 urgent aujourd'hui, surtout au niveau infantile. Il y a aussi l'aspect éducation, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas allés à l'école, et aussi l'aspect santé. Mais il y a aussi, bien évidemment, tout ce qui est aspect économique, hein. Donc créer de l'emploi, parce que pour sortir de la pauvreté, il faut créer de l'emploi pour donner au moins aux gens la possibilité d'avoir des revenus. Donc on va créer de l'emploi à travers un système de haute intensité de main-d'œuvre, mais on va aussi créer de l'emploi à travers la réalisation de grandes infrastructures. Dès la semaine prochaine, je vais inaugurer la première pierre de réalisation d'une grande construction routière et d'autres infrastructures. Donc je pense que c'est un message fort que je voudrais adresser à la population, comme quoi on travaille, je travaille pour la population et je le dis vraiment avec humilité, je sens que c'est un devoir de tout dirigeant.
Ancien comptable de 55 ans, ancien ministre des Finances du régime de transition sortant, le président Herry Rajaonarimampianina n'a pas attendu longtemps pour témoigner de l'importance du rôle que joue l'Église dans la Grande Île. Une de ses premières visites fut d'ailleurs auprès de Mgr Benjamin Marc Ramason, nommé le 27 novembre dernier à l'archidiocèse d'Antsiranana, mais qui lui aussi a pris ses fonctions le 25 janvier dernier, au même moment que le président malgache. Herry Rajaonarimampianina nous explique les raisons de cette visite à Mgr Ramason.
Mon investiture s'était déroulée à la même date que son intronisation ici. Et je me suis dit pourquoi pas une première sortie chez lui aujourd'hui, non seulement pour honorer de ma présence ce grand événement pour lui, mais aussi pour dire un message important que l'Église participe aussi à l'œuvre de développement national en éduquant les chrétiens en matière d'éducation sur la paix, sur la réconciliation nationale, sur l'amour de son prochain. Donc je pense que ce sont des valeurs que j'ai partagées et je suis convaincu que ces valeurs sont aussi partagées par l'Église. Donc on a des points communs dans le cadre de notre mission. respectives.
Et je vous propose enfin d'entendre la voix du nouvel archevêque d'Ansi Ranana. Monseigneur Amasson revient au micro de nos collègues malgaches sur sa future mission pastorale.
Certainement, il y a beaucoup de priorités qui m'attendent et des défis à relever. Mais déjà, je vois à travers les interpellations par-ci, par-là, par des échos que j'ai eus en conversant avec les gens, c'est surtout l'éducation et la vie de famille qui sont surtout les points importants que nous devons, en tant qu'Église dans cette région du Nord, que nous devons donc travailler un peu plus. Et je rends hommage à mes prédécesseurs parce que c'est un archidiocèse qui est déjà assez structuré dans ce sens et qui a donné une place importante au rôle de laïc selon l'esprit de Vatican II et un rôle de laïc dans la communion entre prêtres, religieux et laïcs. En parlant de l'éducation, c'est surtout des jeunes, des adolescents. Les jeunes sont confrontés à plusieurs difficultés au niveau social. Beaucoup n'ont pas la possibilité de suivre des études et même ceux qui ont pu avoir des diplômes, ils ne trouvent pas de travail. Cela engendre des frustrations et des frustrations, des déceptions et qui le poussent à être de temps en temps, pas souvent, mais à être des violents. C'est pour cela que l'éducation des jeunes, par le mouvement, par d'autres moyens, s'avère nécessaire.
Des entretiens retrouvés sur notre site internet www.radiovaticana.va. Nous remercions encore nos collègues de Radio Don Bosco. En Cisjordanie, le sort de dossiers palestiniens emblématiques dépend désormais de la Haute Cour de justice israélienne. Elle commence ses auditions ce mercredi concernant deux recours déposés contre l'érection du mur de séparation israélien. La première plainte, présentée par l'ONG Les Amis de la Terre Moyen-Orient, dénonce la construction de la clôture de sécurité israélienne dans le village de Batir, dont les terrasses agricoles, qui datent de l'époque romaine, sont considérées comme un prétendant sérieux au classement par l'UNESCO, au patrimoine mondial de l'humanité, d'ailleurs fait inhabituel. Ce recours a reçu le soutien de l'autorité israélienne des réserves et des parcs naturels, pourtant dirigé par des partisans de la colonisation. Et puis l'autre recours vise lui à protéger la vallée de Krimizan, près de Bethléem. S'il était érigé, le mur provoquerait notamment l'exil de 58 familles chrétiennes, une situation que dénonce la coordination des évêques pour la Terre Sainte, Manuela Afidji.
Les familles de Beit Jala ont un besoin urgent de soutien. Le site internet du patriarcat latin de Jérusalem relaie l'appel à l'aide pour la vallée de Krimizan. Appel lancé par 13 évêques européens et nord-américains. Dans un communiqué, ils se font porte-parole de la douleur et de l'angoisse de quelques 58 familles chrétiennes qui doivent faire face à une menace imminente. Ils pourraient perdre leur terre et leurs moyens de subsistance. Le mur de l'apartheid, ainsi que le qualifie les Palestiniens, séparait les habitants de Beit Jala de leurs champs, détruisant oliveraies, vergers et vignobles. Et parce qu'elles perdraient tout, cela pourrait pousser la communauté à l'exil, affirme le curé de Beit Jala. Concrètement, cette barrière va intégrer les terrains des familles palestinienne à la colonie israélienne de Gilo, mais cette section de mur va également séparer le couvent des Salésiens de celui des sœurs salésiennes. Pour autant, les chrétiens ne sont pas directement visés. Le ministère israélien de la Défense précise que le tracé est purement fondé sur des considérations de sécurité. Sans cette nouvelle section, Jérusalem reste ouverte et vulnérable. Ce que soulignent d'ailleurs les évêques. Ce mur, écrivent-ils, sert à consolider les zones de colonie israélienne de peuplement et à séparer de façon permanente Bethléem de Jérusalem. Ce plan particulier est pour eux un microcosme de la situation tragique dans la Terre Sainte qui provoque le ressentiment et la méfiance et rend bien plus improbable la possibilité d'une solution si nécessaire. Si les évêques Québec reconnaissent le droit de l'État d'Israël à la sécurité et à des frontières sûres, il relève que le tracé du mur de séparation s'écarte fortement de la ligne de démarcation internationalement reconnue. Ils en appellent ainsi à la communauté internationale pour que celle-ci encourage Israël à respecter le droit international.
Et parmi la dizaine d'évêques qui sont allés sur place à la mi-janvier pour apporter leur soutien à la communauté chrétienne, parmi eux Mgr Pierre Burcher, il est l'évêque de Reykjavik. On l'écoute.
Pour eux, il en va de leur existence parce qu'il y a ces oliviers dans une région du reste magnifique, cette vallée de Crémizan. Il y a aussi les vignes des pères de Crémizan, des pères salésiens. Et toute cette région est très très belle et nourrit l'existence de ce nombre important de familles palestiniennes chrétiennes. Donc si le mur était établi là, c'est la fin de leurs revenus, donc c'est comme conclusion l'émigration à nouveau de beaucoup de chrétiens.
Qu'est-ce qu'ils vous ont dit au niveau de leur vie au quotidien en ce moment ?
Ce qui m'a frappé le plus, c'est un manque d'espoir. Ils ont investi depuis de nombreuses années dans tout ce processus de justice et ne semblent pas aboutir à une réalité concrète, comme du reste ça semble avoir été confirmé aujourd'hui dans cette affaire de Crémizan.
La Haute Cour de justice israélienne a donc examiné mercredi les deux recours contre le tracé du mur. Quelles informations avez-vous à ce sujet ?
L'audience finale dans cette affaire de Crémizan est close, même si aucune décision n'a été prise ou annoncée par le tribunal à ce jour. Aucune information sur la date non plus à laquelle une décision peut être attendue. Et les principaux arguments de l'État d'Israël était à s'y attendre, en fait, la sécurité et le fait que les principaux travaux de construction de la clôture de sécurité sont déjà réalisés et que, d'après eux aussi, des investissements importants ont été faits. Une réalité qui doit réjouir particulièrement aussi les évêques de la coordination 2014 en Terre Sainte, c'est que l'audience finale a eu lieu en présence de beaucoup de gens de Betchala, ainsi que des maires de Betjala et de Bethléem, de diplomates de différents pays, notamment l'ambassadeur d'Allemagne, et de représentants des églises. À mon avis, prières, solidarité et intervention internationale doivent dans ce cas-là non seulement perdurer, mais encore s'intensifier.
Et toujours concernant la Terre Sainte, le pape François a accepté la renonciation de Mgr Elias Chakour, l'archevêque Melkite de Saint-Jean-d'Acre, d'Haïfa, Nazareth et de la Galilée en Israël. Le prélat aura 75 ans en novembre prochain, ce qui correspond à l'âge canonique de la retraite pour les évêques. Et dans le même temps, le pape a nommé Mgr Moussa El Hadji, archevêque maronite de Haïfa et de Terre Sainte, administrateur apostolique sede vacante de l'archiparchie Melkite de Saint-Jean-d'Acre. L'archidiocèse compte 76 000 chrétiens grecs melkites. C'est une information publiée par Aletheia. Selon une étude publiée par le site internet catholique, ce mercredi, le pape François est la personnalité politique la plus populaire sur les moteurs de recherche sur internet. Entre le mois de mars, mois de son élection, et décembre dernier, son nom est en tête des recherches mensuelles sur Google, 1 700 000 clics. Son nom est par ailleurs cité sur la toile plus de 49 millions de fois, devançant les présidents américains et russes. Un pape qui fait du buzz, un graffiti le représentant fait le tour des réseaux sociaux depuis ce mardi. Il aura suffi d'un tweet posté par le Conseil pontifical pour les communications sociales pour provoquer la cohue à quelques pas du Vatican. Sous l'œil de nombreux journalistes, quelques fidèles sont venus voir et toucher un graffiti représentant le pape François en super-héros. Un poing levé, l'autre tenant fermement sa petite mallette noire de travail, mallette sur laquelle on peut lire Valores. Et puis enfin, en ce qui concerne le magazine pop-rock Rolling Stone, il a consacré son nouveau numéro américain au pape François, provoquant une réaction ce mercredi du directeur de la salle de presse du Saint-Siège. Pour le père Lombardi, cela montre bien que les nouveautés du pape attirent dans les milieux les plus divers. Hélas, poursuit le père Lombardi, l'article tombe dans l'erreur habituelle d'un journalisme superficiel qui, pour mettre en lumière les aspects positifs du pape François, décrit négativement le pontificat de Benoît XVI avec une dureté surprenante. Dommage, regrette le jésuite. Le pape François précise-t-il, sait très bien ce que l'Église doit à son prédécesseur. prédécesseurs. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur internet www.radiovaticana.va ou encore sur notre page Facebook Radio Vatican en français. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour un nouveau magazine en langue française de Radio Vatican.